de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Au lendemain des manifestations contre le hijab, l'Inde ferme les écoles. L'Union européenne pousse le traité pandémique interdisant les marchés d'animaux sauvages. Le Japon évalue l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié à l'Europe. L'Indonésie a besoin d'un investissement de 1177 milliards de dollars pour une électricité propre. L'Indonésie reçoit 2,7 millions de doses de vaccin AstraZeneca d'Australie. Le ministre indonésien des Affaires étrangères encourage les Émirats arabes unis à accroître leurs investissements en Indonésie. Le premier essai clinique du vaccin rouge-blanc est officiellement mené. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'État du Karnataka, dans le sud de l'Inde, a ordonné la fermeture des écoles et des collèges pendant 3 jours. Cela a été transmis par le ministre en chef Basavaraj Bommai mardi 8 février, après que l'interdiction du hijab dans un certain nombre d'écoles ait provoqué des protestations. La semaine dernière, les médias locaux ont rapporté que les écoles de la ville côtière d'Udupi refusaient aux filles musulmanes portant le foulard de venir à l'école, citant un ordre du ministère de l'Éducation déclenchant les protestations des parents et des élèves. Les tensions à Udupi et ailleurs dans le Karnataka, à majorité hindoue, se sont intensifiées ces derniers jours. Ministre de l'Éducation Karnataka C.B. Nagesh, qui a publié l'ordre sur Twitter, a déclaré que le code vestimentaire dans les écoles avait été établi à la suite d'un examen des décisions de justice de tout le pays interdisant les hijabs dans les établissements d'enseignement. L'Union européenne fait pression à un accord mondial pour prévenir une nouvelle pandémie, notamment en interdisant les marchés d'animaux sauvages et en donnant incitation aux pays qui signalent des virus émergents. C'est ce qu'a déclaré un responsable de l'Union européenne à Reuters. Les négociations internationales se sont réunies pour la première fois mercredi le 9 février pour préparer les pourparlers sur ce traité. L'objectif de pourparlers et de parvenir à un accord initial en août. Parmi les éléments que l'Union européenne souhaite inclure dans cet accord figure la fermeture progressive des marchés d'animaux sauvages. Les incitations pour les pays signal des nouveaux virus sont également considérées comme importantes pour aider à les détecter rapidement et éviter les fermetures d'informations. Les discussions sur l'accord incluront des délégués de 6 pays représentant des régions clés, à savoir le Japon, les Pays-Bas, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Thaïlande. Le gouvernement japonais est en train d'évaluer le plan de distribution de gaz naturel liquéfié GNL vers l'Europe. La tension persistante à la frontière Ukraine-Russie a en effet rendu le continent bleu inquiet pour les approvisionnements en GNL. Des sources du gouvernement japonais ont déclaré à Kyodo News mercredi 9 février 2020 que le Japon prévoyait de fournir une partie de ses réserves de GNL à l'Europe, alors que l'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident au sujet de l'Ukraine compromettait la sécurité énergétique de la région. Cependant, il a déclaré que le Japon assurera d'abord un approvisionnement suffisant pour les besoins intérieurs. Après cela, les réserves de GNL seront fournies à l'Europe. Le gouvernement indonésien a calculé un besoin d'investissement de 1177 milliards de dollars américains pour construire une centrale électrique provenant d'énergie nouvelle et renouvelable, EBT, de 587 GW jusqu'en 2060. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de la République d'Indonésie, Arifin Tasrif, lors de l'événement Mandiri Investment Forum 2022 qui sera suivi à Jakarta mercredi. Le détail de la valeur d'investissement pour le projet d'électricité propre sont la construction d'une centrale électrique de 1 042 milliards de dollars américains et la transmission de 135 milliards de dollars américains. Arifin Tasrif a déclaré que le gouvernement soutenait tous les changements qui se produisaient pour atteindre l'objectif d'EBT et de neutralité carbone en Indonésie par le biais d'un soutien fiscal, de réglementation, etc. Il a ajouté que le gouvernement offrait un bon retour sur investissement pour convaincre les investisseurs. Un total de 2700 000 doses de vaccin AstraZeneca sont arrivées mercredi à l'aéroport international Soekarno-Hatta de Tangerang Banten. Le vaccin provient d'un don du gouvernement australien dans le cadre d'un programme de coopération multilatérale. Pour cette visite, l'Indonésie tient à remercier le gouvernement australien. Cela a été rapporté par la chaîne d'information du ministère de la Communication et de l'information infopublic.id. Avec l'arrivée du vaccin, l'Indonésie a reçu un total de plus de 500 millions de doses de vaccins par divers voies et mécanismes. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie encourage l'accélération et l'augmentation des investissements en Indonésie en provenance des pays du Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis. Le chef de l'Agence de stratégie de politique étrangère ad intérim au ministère des Affaires étrangères, Tuku Feijasha, lors du webinaire international « The United Arab Emirates Investment in Indonesia Accelerating Investment from the Middle East » à Jakarta, a déclaré mercredi que son parti doit veiller à ce que l'Indonésie puisse continuer à offrir un climat attractif pour les entreprises étrangères en Indonésie. Tuku Feijasha a reconnu que les investissements des pays de la région du Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis, le Qatar et Oman, avaient augmenté ces dernières années. Cependant, il a noté que la valeur de l'investissement était relativement faible par rapport à la valeur de l'investissement en Chine, aux États-Unis, à Singapour et au Japon. Par conséquent, il invite la communauté des affaires des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient à accroître les investissements dans le pays. Grâce à cet investissement, Kufejasha estime que l'Indonésie pourra devenir une plaque tournante pour les entrepreneurs des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient afin de développer leurs activités dans la région Asie-Pacifique. Le vaccin rouge et blanc développé par l'Université Erlanga et Biotis Pharmaceutical SA a officiellement commencé la première phase des essais cliniques. L'essai clinique a été mené à l'hôpital général régional Dr. Sutomo Surabaya mercredi 9 février 2020. Le président directeur de l'hôpital Dr. Sutomo, Dr. Johnny Wahyuadi, a déclaré que l'essai clinique de première phase de ce vaccin avait été testé sur 90 sujets de recherche. Le vaccin est injecté en deux doses à 28 jours d'intervalle. Les essais cliniques de la deuxième phase seront menés du 11 avril 2020 au 11 avril 2023. Et les essais cliniques de la troisième phase seront programmés après avoir passé la deuxième phase à 5000 personnes. L'Agence indonésienne de surveillance des aliments et des médicaments BPOM a également approuvé le vaccin rouge et blanc fabriqué par l'Université Erlanga et Biotis Pharmaceutical Indonesia SA pour poursuivre la mise en œuvre d'essais cliniques sur l'homme. Bonjour Zoïtar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Les tensions russo-ukrainiennes doivent être résolues par une approche diplomatique ». Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ne semblent pas montrer des signes d'apaisement, même si le président russe Vladimir Poutine a donné des assurances pour apaiser les tensions après des entretiens avec le président français Emmanuel Macron à Moscou lundi 7 février heure locale. La raison en est que la Russie reste ferme dans ses demandes à l'OTAN et au monde occidental. La première demande, la Russie a demandé à l'OTAN d'arrêter l'expansion en incluant de nouveaux membres. Deuxièmement, la Russie a demandé aux troupes de l'OTAN de retirer leurs troupes d'Europe de l'Est. Troisièmement, la Russie a demandé aux États-Unis de promettre de ne pas soutenir les pays membres de l'OTAN en Europe de l'Est avec des armes nucléaires. L'Alliance occidentale n'a pas accédé à la demande de la Russie. L'Alliance occidentale a répondu à la demande de la Russie par des menaces de sanctions. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a exhorté lundi 8 février la Russie à désamorcer les tensions et a averti que la Russie ferait face à de sévères sanctions politiques et économiques si elle attaquait l'Ukraine. Le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que des sanctions et d'autres mesures seraient imposées en cas d'attaque russe contre l'Ukraine. Le gouvernement britannique demandera au Parlement de sanctionner les particuliers et les entreprises russes. Au milieu de cette menace de sanctions, la Russie ne semble pas reculer. La Russie a déployé plus de 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne ces dernières semaines. Récemment, la Russie a également déployé des avions de combat MiG-31K armés de missiles d'attaque terrestre hypersonique, Kinzhal à Kaliningrad, dans la région de la côte baltique. Les alliés ukrainiens tels que les États-Unis et l'OTAN continuent d'envoyer des renforts de sécurité et du matériel de combat pour aider l'Ukraine à anticiper si la Russie décide d'envahir. Dans ces circonstances, n'y a-t-il aucun moyen d'empêcher l'escalade de tensions? En fait, il existe toujours une solution pour résoudre la crise entre la Russie et l'Ukraine, soutenue par des alliances occidentales. La menace de sanctions ne surmonte pas la crise actuelle. L'approche diplomatique est un moyen de résoudre la crise ou du moins d'éviter le pire. Ce qui a été fait par le président français Emmanuel Macron est l'un des efforts diplomatiques pour empêcher l'escalade. Au milieu des tensions croissantes, Macron s'est envolé pour Kiev en Ukraine après avoir visité Moscou lundi 7 février. À Moscou, il a eu des entretiens avec le président Poutine pendant plus de 5 heures. Selon le président Macron, l'objectif de rencontrer le président Poutine est d'empêcher l'escalade et de créer de nouvelles perspectives. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a donné l'assurance d'apaiser les tensions après s'être entretenu avec le président Emmanuel Macron à Moscou lundi 7 février heure locale. On espère que toutes les parties en conflit doivent soutenir et poursuivre l'approche diplomatique adoptée par le président français Emmanuel Macron. Ainsi, le pire peut être évité. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Fork on the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From India.
C'est Zeritok, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Et on commence avec l'événement du 10 février 1952, la première élection générale en Inde. Le 10 février 1952, l'Inde a organisé avec succès ses premières élections générales depuis son indépendance de la domination britannique. Le parti du Congrès indien, dirigé par Pandit Jawaharlal Nehru, a remporté une victoire écrasante aux élections. Cette victoire a fait Pandit Nehru le premier ministre de l'Inde pendant 5 ans. L'élection est considérée par le monde comme un test pour que l'Inde devienne une démocratie après l'indépendance de la Grande-Bretagne. Il y a 176 millions de personnes qui ont le droit de voter, même si 15% seulement peuvent lire ou écrire. Les symboles ont été utilisés sur les bulletins de vote de chaque parti et des candidats indépendants, si bien que ceux qui ne peuvent pas lire savent où voter. Même les électeurs ne sont pas tenus de marquer leur bulletin de vote. Les électeurs n'ont qu'à les mettre dans la case marquée du symbole de leur candidat préféré. Passons maintenant à l'événement du 10 février 1962, un avion espion américain est abattu en Union soviétique. Un avion espion appartenant aux États-Unis a été abattu lorsqu'il traversait le ciel de l'Union soviétique. Le pilote de l'avion, Francis Gary Power, a survécu malgré sa détention par l'Union soviétique. Après des négociations, l'Union soviétique a accepté de libérer Gary après que les États-Unis aient également accepté de libérer espions de l'Union soviétique détenus. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 février 1984, le massacre de Wagala au Kenya. Le massacre de Wagala a été perpétré par l'armée kényane le 10 février 1984 à l'aéroport de Wagala dans la région de Wajir au Kenya. La région est principalement habitée par des Somaliens. Le président du Kenya de l'époque, Daniel Arap Moi, a ouvert une caserne militaire près de Wagala dans le but d'aider à désamorcer les conflits entre tribus. Cependant, selon des témoins oculaires, environ 5 000 hommes somaliens ont été emmenés sur la piste d'atterrissage et privés d'accès à l'eau et à la nourriture pendant 5 jours avant d'être exécutés par des soldats kényans. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Hai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kalah hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Hatimu ada jalan untukku milikimu sayangimu. Hatinya yang terbuka. amour.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, les activités d'économie verte augmentent la compétitivité de l'Indonésie. La jointe de l'économie du ministère de la planification du développement national, PPN, et du comité de planification pour le développement national, BAPNAS, Amalia Adininger Widyasanti a déclaré que les activités économiques vertes ou respectueuses de l'environnement pouvaient augmenter la compétitivité des produits indonésiens. Elle a donné un exemple de produits tels que des vêtements en provenance de l'étranger qui utilisent actuellement des produits recyclés comme matière première. C'est l'un des attraits des produits vendus sur le marché mondial. L'Indonésie doit être en tête, sinon l'Indonésie perdra la compétition. C'est ce qu'a affirmé Amalia lors de la conférence sur les emplois verts telle que rapportée par Antara à Jakarta mardi. Elle a dit qu'elle orienterait tous les députés de BAPNAS pour promouvoir un développement plus vert à l'avenir. La mise en œuvre du développement respectueux de l'environnement sera également coordonnée avec tous les ministères et institutions, entre autres à travers l'élaboration d'indicateurs d'évaluation de performance pour les programmes prioritaires d'économie verte. Dans les documents de planification annuelle et quinquennale, BAPNAS doit compiler et définir des indicateurs de performance pour chaque programme et activité prioritaire avant de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'économie verte en Indonésie. Amalia a en outre expliqué qu'actuellement, le défi de la transition de l'économie nationale vers une direction plus verte ou respectueuse de l'environnement et la dépendance de l'Indonésie vis-à-vis des produits fossiles qui ne sont pas respectueux de l'environnement tant pour les ressources d'énergie que pour les exportations. Selon elle, les activités de recherche et de développement pour pouvoir obtenir les technologies des énergies nouvelles et renouvelables qui sont moins chères seront un grand défi à l'avenir. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
La grotte de Batu Cermin, Labuan Bajo en résidence de Manggarai Occidental, Nusa Tenggara Ouest, est en cours de préparation pour l'événement parallèle de Zeveng. Située non loin du centre-ville de Labuan Bajo, la grotte de Batu Cermin est l'une des visites uniques de Labuan Bajo. De plus, il y a beaucoup de documents historiques et d'histoire derrière cette destination naturelle. Selon le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, cette destination peut devenir une destination de tourisme éducatif. Le gouvernement est également prêt à soutenir diverses formations et à fournir une assistance pour qu'il y ait une augmentation de la capacité en termes de services. La grotte de Batu Cermin formée de calcaire a été étudiée en 1951 par un missionnaire également archéologue néerlandais, Theodore Verhoeven. Cette grotte d'une superficie d'environ 19 hectares était autrefois sous la mer ou après des millions d'années, elle a été soulevée à la surface de la terre. Les parois de la grotte contiennent beaucoup de sel afin de refléter la lumière du soleil. De plus, les murs et le plafond de cette grotte contiennent des fossiles de poissons, de tortues et de rochers coralliens, ainsi que des stalactites qui ont plongé du ciel de la grotte et des stalagmites qui sortent du sol de la grotte. C'est l'attraction principale de la grotte de Batu Cermin. Si vous allez plus loin dans la grotte, vous trouverez un espace étroit avec des trous dans le ciel de la grotte. Pendant la journée, la lumière du soleil pénètre à travers les trous. La lumière qui se reflète sur les parois de la grotte se reflète dans d'autres zones de la grotte, de sorte que la pierre de la grotte ressemble à un miroir. La réflexion de la lumière rend également la surface de la pierre brillante, voire dorée à verte. Par conséquent, ce phénomène naturel fait que les résidents locaux l'appellent la grotte de Batu Cermin. La grotte de Batu Cermin est située à environ 4 km seulement du centre-ville de Labuan Bajo et prend environ 15 minutes pour s'y rendre en véhicule à moteur. Le billet d'entrée est de 10 000 rupiah par personne et vous devez payer le guide touristique. Il vaut 20 000 rupiah. Le prix du billet comprend les équipements de sécurité tels que les casques qui doivent être utilisés lors de l'entrée dans la grotte. En raison de l'étroitesse de la grotte et de la présence de stalactites et de stalagmites, l'entrée des visiteurs est soumise à des restrictions. Une visite dure environ 30 minutes et ne peut être rejointe que pour 10 visiteurs, y compris le guide. Le meilleur moment pour visiter la grotte de Batu Cermin est de 9h à midi, car à ce moment-là, vous pouvez voir la lumière du soleil se refléter sur le mur de la grotte. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Rayuan yang pelik. masih pikir kamu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Senja hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'Indonésie en couleur, intitulée Le Festival international du film de Bali. Le Festival international du film de Bali se déroulera à nouveau du 11 au 14 novembre avec des projections en face à face gratuitement. Le Festival international du film de Bali est le premier festival du film d'Indonésie qui a eu lieu il y a 13 ans, projetant des centaines de films nationaux et internationaux. Le festival, connu sous le nom de Balinal, redémarrera après un an de confinement pour célébrer l'exposition de films sélectionnés au festival 2020 qui a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. La 14e édition qui se tenue sur l'île de Bali en Indonésie continuera à ouvrir des divertissements avec des présentations de qualité. Les projections de courts-métrages, de longs-métrages et de documentaires primés d'Indonésie et du monde entier suivront le modèle de projection numérique et en face à face adopté par le Festival international de film de Toronto. Lors de ce festival de film, il y a une compétition avec des prix décernés dans plusieurs catégories artistiques et techniques. Les cinéastes indonésiens, dont la présence a été confirmée comprenez les réalisateurs Lasja F. Susatyo, Richard O., Nia Dinati et Sim F. et l'acteur Aryo Bayo. Berlinale accueillait l'Académie des prix du cinéma asiatique à Jakarta du 5 au 7 novembre, a présenté des films les plus remarquables de Hong Kong et ont remporté des prix. L'Académie des prix du cinéma asiatique a été créée en 2013 par le Festival du film de Busan, Hong Kong et Tokyo pour mettre en valeur l'industrie cinématographique et la culture asiatique. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah lalu di dalam hidupmu. Aku yang salah artikan, kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya
bilaku mengganggu hidup.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oh, namun apalah artinya cinta pada bayangan.
Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti,
adakah selama ini aku cinta sendiri.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Ernie Johan. Ernie Johan, une chanteuse indonésienne qui a atteint son âge d'or dans les années 1970. À cette époque, ses chansons ont toujours reçu des réactions positives du public, dont l'album Teluk Bayur. À travers cet album, le nom d'Ernie Johan a été enregistré comme la première chanteuse à recevoir le Golden Record, car ses ventes d'albums ont atteint des millions d'exemplaires. Cet album a l'un des hits intitulé Teluk Bayur. Elle a également obtenu le même succès dans la chanson Kau Selalu Di Hatiku. Cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui a des sentiments d'affection pour quelqu'un qu'elle aime. Seulement lui qui sera toujours dans le cœur. Bon, chers auditeurs, voici Ernie Johan va chanter une chanson intitulée Kau Selalu Di Hatiku. Bonne écoute.
Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu, akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Kasihku serahkan.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.